Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Restez avec nous pour ce nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire, consacré à un livre bien particulier, nous allons même dire un très vieil ouvrage, puisqu'il a été écrit et illustré vers 1482-1483. Nous étions à cette époque dans la dernière année du règne de Louis XI. Le livre des Trois Âges, tel est son nom, a été rédigé par un certain Pierre Choinet, et ce livre est à la fois un objet d'art, mais aussi un admirable texte reflétant une époque avec ses propres complexités, mêlant à la fois religion et pouvoir, économie et société. Alors pour évoquer cet ouvrage, je suis heureux de recevoir deux invités. Tout d'abord Philippe Contamine. Philippe Contamine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes membre de l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, spécialiste des temps médiévaux, notamment de la guerre, de la noblesse et du pouvoir au Moyen-Âge. Vous êtes venu à plusieurs reprises au micro de Canal Académie. En revanche, c'est la première émission que nous enregistrons ensemble. J'espère qu'il y en aura bien d'autres. Alors, vous avez naturellement publié de nombreux ouvrages, mais pour cette émission, spécifiquement, j'ai travaillé sur le livre que vous avez dirigé, Le Moyen-Âge, avec comme sous-titre « Le roi, l'église, les grands, le peuple, 481-1514 », le premier tome de l'histoire de la France politique dans la collection Point Seuil Histoire. Je reçois également à ce micro, Lidwine Scordia. Lidwine Scordia, bonjour.
Bonjour Christophe.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes aussi historienne, médiéviste, maître de conférences à l'Université de Rouen. Vous travaillez notamment sur les idées et les croyances politiques de l'Occident à la fin du Moyen-Âge. Et vous venez donc de publier une édition critique du livre des Trois Âges, une publication des universités de Rouen et du Havre. Alors, une édition critique, cela fait un peu technique, mais il s'agit d'un ouvrage magnifique, un ouvrage qui comporte notamment le fac-similé du manuscrit original, avec son texte, bien sûr, mais aussi ses illustrations, ses miniatures. Alors, ma première question, elle s'adresse à vous deux. C'est la première fois que le livre des Trois Âges est publié. Existe-t-il encore beaucoup de textes inconnus? Lidwine Scordia, vous dites que ce texte n'avait jamais été publié parce qu'il était incompris. Existe-t-il encore beaucoup de textes incompris?
Qu'appelle-t-on texte? Autrement dit, des livres dans le genre de Mémoires de Comines, ou bien dans le genre justement du livre Les Trois Âges de l'Homme de Pierre Choinet, il y en a évidemment de moins en moins. Mais il peut y avoir encore des petits traités pour la fin du Moyen-Âge, en langue vulgaire, qui attendent leur éditeur. Plus, c'est une exigence des historiens, des érudits, il faut toujours proposer de nouvelles éditions, meilleures que les précédentes, des éditions non seulement critiques du point de vue de la codicologie, comme on dit, mais également du point de vue du commentaire, car la portée de tel ou tel de ces textes n'est pas toujours évidente, et c'est ce qu'a montré très bien Lidwine Scordia. Elle démystifie en quelque sorte ce livre, qui est un poème assez court finalement, 600 vers ou je ne sais quoi, que je connaissais peut-être trop rapidement, mais je l'avais consulté en manuscrit à la Bibliothèque nationale de France. Je crois que c'est le manuscrit 70 de la collection Smith-Lewis, n'est-ce pas? Mais je n'avais pas compris toute la portée, tout l'intérêt, et c'est justement le travail de Lidwine Scordia de nous montrer la richesse de ce poème.
Lidwine, pourquoi avoir choisi ce texte?
Mais j'ai choisi ce texte parce que c'est parti d'une image, une des miniatures du livre des Trois Âges, d'un berger qui tient un mouton et qui est en train de tondre le mouton. Et en dessous de cette belle miniature, dans un beau paysage pacifié, un paysage riche aussi, une belle nature, il y a un petit quatrain qui explique qu'une fois l'an fait bon ses brebis tondre, en la saison sans du cuir écorché, car trop souvent les peut faire morfondre, et sans le cuir, laine ne croît sur chair. Alors c'est du moyen français, mais de ce moyen français, on comprend qu'il faut tondre ses moutons de manière raisonnable. Et cette miniature, c'est une miniature d'un berger qui est en fait, qu'on peut très bien interpréter comme étant le roi berger. Alors évidemment, vous disiez tout à l'heure, Christophe Dickès, que ça se passe à la fin du règne de Louis XI. Alors ça prend une portée tout autre lorsqu'on sait que Louis XI a été, sur le plan fiscal, absolument terrible, puisqu'il a multiplié par 4 l'impôt. Donc cette belle miniature qui a été la première accroche de mon œil, eh bien, c'est une miniature qui pouvait très bien participer d'une critique élégante, mesurée, prudente de la politique royale, ou bien une incitation pour le successeur, pour Charles VIII, le futur Charles VIII. Incitation à la modération. Qui peut aller contre une telle incitation? Donc c'est cette image qui m'avait plu, que j'avais vue dans un livre qui est Le miroir du pouvoir, qui avait été fait par Colette Beaune, Colette Beaune étant ma directrice de thèse, et préfacée par François Avril, grand conservateur en chef des manuscrits à la Bibliothèque nationale. Après, Philippe Contamine a un rôle, parce que j'ai participé à un colloque que vous aviez organisé, c'était en 2000, déjà, sur l'impôt au Moyen-Âge, avec Jean Kerhervé, Albert Rigaudière. Et lorsque les actes de cet immense colloque, un très important colloque international, lorsque les actes ont été publiés, quelle image a été choisie? Et moi, je prétends que vous n'avez pas su résister à la beauté de cette image qui proclame la modération, qui incite à la modération. Alors, c'est pas ça?
Très volontiers, mais s'il faut dire que ce colloque était financé par le ministère de l'économie et des finances.
Et ça se passait à Bercy.
À Bercy. On s'est dit, est-ce que ces messieurs des finances vont accepter cette miniature qui incite l'État, le gouvernement, le pouvoir à la modération en matière, disons, de fiscalité? Mais finalement, ils ont pris bien les choses avec un certain humour et ils ont accepté cette très belle miniature. Je dirais que, pour ma part, ce texte, finalement, je me suis intéressé, de façon beaucoup moins attentive que vous, cher Lidwin, par le biais de Pierre Champion. Vous racontez très bien comment il y a un lien, je ne vais pas le détailler ici, entre Pierre Champion et ce manuscrit. Pierre Champion a été, en un sens, pendant tout un temps, le détenteur...
Le seul
détenteur de ce manuscrit. Et donc, il a écrit, notamment dans l'histoire poétique du XVe siècle, un ouvrage que je vous recommande, car il est très plaisant, un chapitre entier sur Pierre Choinet, avec une série de miniatures. Et alors, ce sont d'autres miniatures, outre celles-là qui m'avaient frappé, les miniatures relatives à la chasse, qui sont d'une très grande beauté. Et effectivement, dans le propos de Pierre Choinet, la chasse occupe
un rôle
pas mal
très
de place.
Important.
Nous
il y a
y revenir, oui.
Quatre très belles miniatures de chasse. Et j'y suis allée le présenter au musée de la chasse. Ils ne connaissent pas ce manuscrit, évidemment, puisqu'il était inédit, comme on le disait. C'est le grand plaisir, évidemment, pour le chercheur, que de dicter un tel manuscrit. Et ce sont quatre très belles miniatures, et qui sont à la fois très belles et très savantes et très justes.
Alors nous allons revenir sur le contenu à la fois du texte et des miniatures, puisque les images parlent et les images ne mentent pas. Comme dit un ami qui dessine des bandes dessinées, l'image ne ment pas. Je voudrais revenir sur l'auteur. L'auteur donc est Pierre Choinet. Or Pierre Choinet est connu pour un texte qui s'appelle « Le rosier des guerres », qui est un texte qui, pour lui, a une plus grande postérité. Qui était ce personnage, Pierre Choinet?
Je peux en dire un mot. Donc, Pierre Choinet est un auteur du XVe siècle qui a eu une vie assez longue, puisqu'on le fait naître. C'est lui-même qui, finalement, nous le dit, grâce à l'épitaphe de son tombeau, en 1411, et qui meurt en 1483-1484. C'est un médecin, c'est un astrologue. Et en plus, il s'est occupé un petit peu de finances. Donc c'est un polyvalent. Mais disons, avant tout, il a une culture de médecin, d'astrologue, et puis la culture habituelle des lettrés de son temps. Alors, donc, Pierre Choinet a écrit plusieurs travaux, et il était jusqu'à présent surtout connu pour Le rosier des guerres. Le rosier des guerres, c'est un ensemble de conseils d'ordre politique, éventuellement d'ordre militaire, que Pierre Choinet adresse au roi Louis XI et à son fils, le futur Charles VIII. Et en plus, il y a en annexe une sorte de résumé de l'histoire de France. C'est un tout. Alors on a quand même pas mal de manuscrits, du Rosier des Guerres, plus des imprimés même. Donc ce n'est pas du tout un texte inconnu. Alors on s'est longuement demandé si le texte du Rosier ne portait pas la marque propre de Louis XI. Parce qu'on a attribué à Louis XI tel ou tel développement qui aurait été repris par Pierre Choinet. Je suis de ceux qui pensent que c'est avant tout Pierre Choinet qui a écrit ce texte. Louis XI ne s'embarrassait pas de ce type d'écriture. Et je dirais, au fond, peut-être que vous ne serez pas d'accord, je dirais que le livre des trois âges de l'homme est en fin de compte plus intéressant que
le Rosier des Guerres.
Le Rosier des Guerres, qui me paraît quand même assez plat.
C'est vrai, c'est le Rosier des Guerres qui était connu. C'est vrai que les rares personnes qui se sont intéressées au livre des Trois Âges le comparaient toujours au Rosier des Guerres en disant que le Rosier des Guerres était très supérieur, que les vers du pauvre livre des Trois Âges étaient bancals, que le contenu était moral et légèrement répétitif et ennuyeux. Donc c'est vrai que le Rosier a toujours été mis en avant. On disait le livre des Trois Âges, bon, c'est peut-être un résumé. Et puis personne ne l'avait vraiment lu. Comme vous disiez tout à l'heure, Philippe Contamine, c'est Champion qui s'y est intéressé. Mais il avait de l'affection pour ce texte, certainement. Il aime le manuscrit lui-même, pour des raisons familiales qui sont très passionnantes, finalement, à exposer, à expliquer.
Et que vous exposez fort bien.
Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il aime ce texte? Parce que dans la biographie, donc parmi les grandes biographies de Louis XI, il y a une biographie de Louis XI écrite par Pierre Champion. Et c'est vrai que cette biographie est illustrée, comme l'histoire poétique, où il y a quelques miniatures, est illustrée par des miniatures en noir et blanc, mais ce sont bien nos miniatures du livre des Trois Âges. Alors, il faut vraiment aimer beaucoup un manuscrit pour le placer, alors qu'on n'a pas finalement trouvé la clé de ce texte, la clé qui permet de dire « c'est vraiment à Louis XI, dans un contexte très particulier ». Et ça, Champion, il a aimé le texte, mais il ne l'a pas, je dirais, daté. En fait, c'était peut-être ça. C'est la datation de ce texte dans un contexte très particulier, qui est le contexte de la fin de vie de Louis XI. Louis XI est très diminué par des attaques cérébrales. Il est à la fois conscient de sa diminution et en même temps, il veut la nier. Donc, ça devient quasiment impossible ou très difficile de s'adresser au roi. Et finalement, le livre des Trois Âges, c'est un texte adressé au roi pour l'apprivoiser, le calmer et essayer de lui dire quand même quelque chose, et quelque chose d'important.
Et je vais revenir sur ce que vous dites. Je reste tout de même sur ce personnage. On est étonné par cette pluridisciplinarité. C'est une chose commune aux temps médiévaux.
Il n'est pas le seul de son temps. Moi, je pense qu'il avait la bonne culture des gens de son milieu à son époque. C'est peut-être pas ça ce qui est le plus remarquable chez lui. Alors, il a également écrit un traité d'astrologie, composé, disons, dans les années 1455-1460. Finalement, il ne faut pas oublier que Pierre Choinet écrit ça à la fin de sa vie, lui aussi.
Mais oui.
N'est-ce pas? À la fin, c'est un vieillard, en un sens, qui s'adresse à
un
vieillard.
Il ne
faut pas l'oublier. Mais je reviens un instant à Pierre Champion, parce que c'est un grand historien qui, aujourd'hui, est trop oublié.
Tout
il a
fait.
Été de l'Institut, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, membre de cette grande famille d'éditeurs, les éditions Champion, qui existent toujours. C'est un archiviste paléographe. Il a été en contact avec Anatole France. Et la Jeanne d'Arc d'Anatole France doit beaucoup à Pierre Champion, pour toute la partie factuelle. C'est un grand historien du XVe siècle. Il a écrit un Charles d'Orléans qui n'a pas été remplacé. Il a fait une édition du procès de condamnation de Jeanne d'Arc qui mérite encore d'être consulté, et bien d'autres choses encore, un Villon également. Donc c'est vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable. Au fond, la Providence a bien fait les choses de lui confier pour un temps ce manuscrit en attendant votre édition.
C'est vrai, moi je suis également séduite par Pierre Champion, j'aime beaucoup sa biographie de Louis XI. Bon, Louis XI sépare les gens en deux camps, puisqu'on dit Louis XI le tyran ou Louis XI le grand homme. C'est vrai que Champion a de la sympathie, de l'admiration et peut-être même de l'affection pour Louis XI. Bon, ça ne le rend pas plus aveugle, mais c'est plutôt, je dirais, une biographie pro-Louis XI. Je suis d'ailleurs allée consulter, parce qu'il y a tout le fond des archives Pierre Champion qui sont ici à l'Institut. Voilà, je me disais, je vais trouver encore d'autres choses. Il est allé plus loin sur le livre des Trois Âges, parce qu'il avait fait un article absolument formidable où il donnait de grands extraits du poème. Et puis, il s'est adressé au roi Louis XI et il avait envie probablement de faire plus sur ce texte. Il aurait probablement fait plus sur ce texte. Il avait déjà préparé la route.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et nous évoquons un livre, un bon vieux livre qui date d'il y a plus de 500 ans, le livre des Trois Âges, écrit par Pierre Chouanet, un ouvrage également illustré dont le fac-similé vient d'être publié aux publications des universités de Rouen et du Havre. Nous nous retrouvons dans un instant.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Academy. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Academy, à écouter et télécharger sur canalacademy.com.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée au livre des Trois Âges, un vieil ouvrage écrit par Pierre Chouanet à la fin du XVe siècle sous le règne de Louis XI. Et précisément, donc, ce livre est destiné au roi. Est-ce que c'est un livre ? Est-ce que c'est d'abord une réflexion sur le pouvoir à la fin de ce siècle ?
Alors, c'est un livre qui s'adresse à un roi moribond qui ne veut pas entendre parler de la mort, qui n'aime pas qu'on lui parle de maladie et qui souhaite ardemment retrouver la santé et qui fait faire des pèlerinages, se procure des reliques, avale probablement certaines potions pour retrouver la santé. Il veut gagner un peu de temps pour préparer sa succession, préparer la régence. Il faut dire que le jeune Charles, son fils, est né en 1470, donc il a une dizaine d'années, il est encore très jeune. Et le roi est inquiet. Il est inquiet, peut-être plus trop inquiet, mais on n'est jamais trop inquiet. Le règne a été un règne qui a été rude, donc il est très légitime que ce roi s'inquiète. Mais ce qui est peut-être incroyable pour son entourage, et pour son entourage qui est loyal, Pierre Chouanet est un médecin qui est loyal, c'est-à-dire qui n'a pas d'intérêt particulier, alors que Louis XI était entouré d'autres médecins qui étaient peut-être moins loyaux et peut-être plus intéressés, qui faisaient pression sur lui, qui obtenaient beaucoup, beaucoup d'avantages du roi. Ce n'est pas le cas de Pierre Chouanet. Pierre Chouanet est inquiet d'une chose, c'est que le roi ne fasse pas le bilan du règne et ne se prépare pas à la mort. En fait, ce texte-là, il est un peu comme beaucoup de textes du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge, c'est qu'il parle de toutes sortes de choses.
Il commence par les fameux âges de la vie.
Voilà, et c'est le plan qui va structurer son poème. C'est un titre moderne, mais c'est un titre qui s'impose parce que dès le début, on voit bien que c'est la structure du poème. Jeunesse, virilité, c'est-à-dire maturité, et vieillesse, qu'il appelle décrépité, dont on se dit, bon, alors il ne va pas en parler, mais finalement, c'est la partie la plus longue. Et dans cette partie la plus longue, il va mettre beaucoup de choses, dont un examen de conscience. En fait, il souhaite inciter le roi à faire son examen de conscience.
Parler ne faut de la décrépite, car il n'y a que labeur et douleur.
Ouais.
Bon, c'est une parole qu'on ne peut que répéter et admirer.
Donc je crois qu'effectivement, qui arrive tout à la fin.
Tout à la fin. Donc je crois qu'effectivement, c'est un compendium, il y a toutes sortes d'aperçus. Il ne parle pas de l'enfance.
Très important.
Très important. Donc, normalement, si vous voulez, les gens du Moyen-Âge, depuis le XIIIe siècle, il y avait les quatre âges de l'homme. Donc, l'enfance est laissée de côté, et ce sont les trois autres âges qui sont examinés dans ces vers. Alors, je dirais que, pourquoi parle-t-il de la chasse ? On a l'impression que ça devient un petit peu un hors-d'œuvre, etc. Mais il ne faut pas oublier que Louis XI était le roi chasseur par excellence. Donc il est possible que l'accent qu'il met sur la chasse, comme préparation à la guerre, comme distraction, etc., est destiné à plaire au roi, en quelque sorte. Puisque même réduit à l'immobilité au Plessis du Parc, Louis XI continuait à chasser en lâchant des rats, dit-on, dans sa pièce. n'est-ce pas ? Bon, donc c'était vraiment un fanatique.
Une chasse en chambre.
Une chasse en chambre. Et il a voulu se faire représenter comme un chasseur sur son tombeau à Notre-Dame de Cléry. Oui. Donc, je crois que cet accent mis sur la chasse, à la fois dans le texte et dans les images, n'est pas innocent.
Non, c'est une manière de flatter le goût du roi, que le roi Louis XI a pour la chasse. Il faut dire que les presses de Rouen, les Pures, ont fait un travail absolument remarquable pour détacher des miniatures qui sont, comme on a souvent à cette époque, qui sont très chatoyantes, avec beaucoup d'éléments. On a fait un cahier iconographique où on détache
certains
des tours,
éléments.
Certains éléments, et après, bon, ils sont légendés. Et à un moment donné, je me suis amusée à mettre l'accent sur les chiens, puisque Louis XI était un fou de chiens, et on disait même qu'il traitait mieux ses chiens que certains hommes. Et on compte 43 chiens, et puis il y a plein de races, et c'est pas... Tous ces chiens, on les distingue bien. Encore aujourd'hui, on sait bien remarquer un épagneul, un lévrier. C'est vraiment très précis. L'illustrateur, parce que comme vous disiez tout à l'heure, très justement, l'illustrateur est un co-auteur. C'est un maître.
L'un ne va pas sans l'autre.
Ah oui. C'est un maître très connu, qu'on appelle le maître de l'échevinage de Rouen. Parce qu'il a travaillé pour les échevins de Rouen, mais on ne connaît pas son nom. Donc c'est un peu l'usage. On appelle un artiste qui a travaillé pour tel ou tel prince, en l'occurrence ici des échevins de la ville de Rouen, on dit c'est le maître des échevins de Rouen parce qu'il a travaillé pour les échevins de Rouen. C'est lui qui est l'illustrateur. Je suis éblouie par la beauté. Et c'est pas simplement, je dirais, parce que j'ai vécu avec le livre des Trois Âges, parce que ce sont des scènes qui sont composées et en même temps, il y a des petits détails qui sont d'une justesse sur le plan cinégétique qui sont incroyables.
Évidemment, il y a ce problème de manuscrit, un manuscrit unique. Un manuscrit unique, à partir du moment où l'illustration a été faite par le maître de l'échevinage de Rouen, on peut penser à une production normande, même rouennaise. Est-ce que cela signifie que nous soyons en possession de l'exemplaire de présentation ? Parce que, bon, en général, quand on écrit un ouvrage pour un personnage, on lui offre cet ouvrage, quitte à ce qu'il y ait d'autres copies à côté. Alors, est-ce que nous sommes en présence de l'exemplaire de présentation ? Je crois que rien ne l'indique positivement. C'est un manuscrit très soigné. Vous le reproduisez, et donc on voit bien qu'il est extrêmement soigné. On n'en connaît guère l'histoire avant le XIXe siècle. Il a appartenu à la collection de Firmin Didot, qui était un collectionneur de manuscrits au XIXe siècle, d'imprimeur. Mais avant, n'est-ce pas, entre le XVe siècle et le XIXe, on ne sait pas d'où il vient. Je ne crois pas qu'il soit mentionné dans les inventaires de la bibliothèque du roi, de 1518, de la bibliothèque de François Ier. Je ne crois pas qu'il soit là, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est peut-être pas l'exemplaire de présentation.
Il est très difficile, vous essayez de trouver des pistes, vous faites l'histoire du manuscrit.
Alors, c'est une histoire du manuscrit qui m'a donné à la fois beaucoup de joie et en même temps, je me suis dit à un moment donné, eh bien, il y a encore à faire. Parce que, comme vous disiez, Philippe Contamine, ce texte 1482-83, je pense qu'on peut, c'est assez juste comme datation. Et puis après, je le vois apparaître dans la collection de Firmin Didot. On est en 1850. Il s'est passé quand même pas mal de temps. Alors, j'en ai parlé avec, par exemple, Patricia Stiernemann, qui me dit, ça arrive très souvent, évidemment, qu'on perde la trace, et pour beaucoup de raisons. Mais elle me dit, il y a une raison qui peut expliquer, dans ce cas, la disparition, c'est que ce manuscrit a 19 feuillets, c'est-à-dire 38 pages. Il est donc extrêmement fin. Donc, c'est un manuscrit qui peut être volé, c'est un manuscrit qui peut être perdu. Il y a en plus dans son histoire cette forme qu'il a, c'est-à-dire qu'il est court, il est beau, il est précieux, mais il est fin. Et quand on le voit aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, eh bien, il est comme il était. Depuis le 19e, il a une très belle reliure, signée Lortie, qui était un très grand relieur du temps. Mais sinon, c'est vrai que c'est un manuscrit qui est fin. Quelquefois, on voit arriver sur sa table des manuscrits énormes. Bon, ceux-là sont peut-être moins faciles à perdre. On les perd quand même de vue, souvent. L'histoire est rompue.
Je vais revenir sur le contenu de l'ouvrage. Et finalement, je vais rester sur l'idée de la chasse. Ce qui me marque en lisant, je ne suis pas médiéviste, ce qui me marque dans cette voie, ce sont vos propos, Lidwin Scordia, sur la disposition mentale des gens qui écrivent à l'époque. Vous dites qu'ils ont une capacité de multiplier les sens et de les combiner. Le polysémisme, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette idée ?
c'est un de leurs charmes, je trouve, c'est que lorsqu'ils ont un but, parce que très souvent, lorsque ce genre d'ouvrage est écrit, il y a un but. Bon. Mais ils considèrent que tout peut être utilisé pour parvenir à ce but. Le but, c'est de préparer le roi à la mort. C'est un ars moriendi, d'une certaine manière. Mais d'une autre manière, c'est un ars vivendi, parce qu'on parle de la jeunesse, on parle de la maturité, donc on parle de la vie.
Et vous disiez que c'était aussi peut-être destiné à son fils.
Voilà, le manuscrit va rester, et il passera peut-être dans les collections, et peut-être entre les mains de Charles VIII. Bon. Mais pour revenir à votre question de polysémie, et là, pour la chasse, c'est tellement évident, la chasse, c'est l'éducation du jeune noble, c'est la jeunesse, le premier âge de l'homme, du poème. La chasse, c'est une manière de parler de la paix, parce que si on chasse, c'est que le royaume est en paix, puisque lorsque le royaume est en guerre, plus personne ne chasse, puisqu'on est à la guerre. Donc, vous voyez, c'est une manière détournée, mais élégante et fine, mais très compréhensible pour eux. Pour nous, on fait des efforts pour comprendre. Et puis, il y a encore d'autres sens. Lorsqu'on voit ces animaux, il y a deux scènes de chasse au vol, donc avec les faucons. Il y a de très jolis détails, en particulier une chasse au héron. Il y a une très jolie scène de héron retourné, qui est une scène qu'on retrouve dans les tapisseries de l'époque, qui est un motif qui est très joli et très intéressant. Et puis, on va, après avoir ces deux chaînes de chasse au vol, on a la chasse au cerf, et puis on termine avec la chasse au sanglier. Or, des manuscrits de chasse, il y en a. Il y a de très, très beaux manuscrits et de grands auteurs, Gaston Phébus, par exemple, pour le XIVe siècle, bien, on culminait plutôt avec la chasse au cerf. Et là, c'est le sanglier. Alors, on peut se demander s'il y a une intention.
Chaque animal représente un symbole.
Mais voilà,
le sanglier, c'est le diable, je crois.
Ben, depuis Augustin, le sanglier, qui est cet animal noir, peut être une manière de parler du diable. Et donc, et puis Dante l'a dit, même si on lit peu Dante en France, à cette époque-là, les vices sont représentés par les animaux.
Hein, lorsqu'on sort de la forêt obscure. Je rapprocherais volontiers, disons, les miniatures sur la chasse, et ce qui est dit de la chasse dans le livre, dans le poème de Pierre Choinet, évidemment de Gaston Phébus, mais également il y a un manuscrit qui, je crois, est encore entre des mains privées, qu'on appelle le Terrier de Marcoussis. Le Terrier de Marcoussis, c'est une quinzaine d'années, une vingtaine d'années après, à peine plus, peut-être même moins, une quinzaine d'années après la rédaction par Pierre Choinet du livre des Trois Âges de l'Homme. Et on trouve également des scènes de chasse, et on peut sans doute faire le parallèle entre ces miniatures du manuscrit 70 de la bibliothèque Smith-Lesueur et puis ce Terrier de Marcoussis qui a été édité, mais malheureusement en noir et blanc, il y a quelques années. Et en particulier, je me souviens, dans ce Terrier de Marcoussis, il y a la représentation, ce qui est assez rare, d'une héronnière. Et donc j'ai pensé un petit peu à votre commentaire sur le héron. Il ne faut jamais oublier, effectivement, que toute littérature, tout texte, sollicite plusieurs, légitime plusieurs types d'interprétations, de regards, etc., etc. Mais la période médiévale, c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai, tout simplement, parce qu'il y a la Bible, les quatre sens de l'écriture. Donc, ce sont des gens qui sont imprégnés par le fait qu'il y a la Bible et que la Bible légitime ou bien appelle différentes interprétations, et nous nous trouvons un petit peu dans cette même atmosphère mentale.
Exactement. Et pour eux, la Bible, qui est le modèle, hein, qui est le texte par référence, le fait qu'il y ait cette profondeur de sens, évidemment, donne toute la qualité à ce texte. Et ils reproduisent quasiment naturellement la même chose dans leurs écrits. Alors, à la fois, je trouve qu'il y a ce fond culturel, donc de référence à la Bible, et puis ils ont, j'avoue que j'aime beaucoup, ils ont un opportunisme. Ils ont un but, et tout peut être utile pour arriver à ce but. Parler de la chasse, on parle de la chasse. Parler du jeu d'échecs, on a une très belle scène de jeu d'échecs. Parler de la croisade, il y a une magnifique bataille où deux armées s'encastrent, s'affrontent et s'encastrent. Tout est utilisé.
Et c'est effectivement cette richesse que je souhaiterais, Lidwyn Scordia, mettre en valeur après cette deuxième pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie vous propose de retracer les migrations des hommes préhistoriques. Comment et pourquoi les hommes fossiles sont-ils passés d'un continent à un autre ? À partir de quand parle-t-on d'hominidés et non plus de primates ? Réponse en compagnie d'Henri de Lumley, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de l'Académie des sciences. Ce préhistorien mondialement connu nous livre un exposé passionnant dans notre émission Éclairage, émission en libre téléchargement sur Canal Académie.
Nous entamons la troisième partie de cette émission consacrée au livre des trois âges de Pierre Choinet, un manuscrit de la fin du XVe siècle qui vient d'être publié aux publications des universités de Rouen et du Havre. Et pour en parler, je reçois Philippe Contamine, membre de l'Académie des inscriptions et des belles lettres, médiéviste, et Lidwin Scordia qui a établi l'édition critique de ce livre des trois âges. Nous avions laissé nos auditeurs sur le contenu, sur le symbolisme, sur les thèmes abordés. Il y a une extrême richesse dans ce livre. Je souhaiterais m'arrêter sur le corps politique. Il y a une importance du corps politique. Il y avait une conception très organiciste de la politique. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous laisser la parole, Philippe Contamine.
Je crois qu'effectivement, c'est un des grands passages du poème de Pierre Choinet. Le corps politique, le corps mystique, comme on dit également, c'est une très vieille histoire qui remonte à l'Antiquité classique, qui remonte également aux Évangiles, le corps mystique de l'Église, et qui a connu au Moyen-Âge, à travers le Moyen-Âge, un développement considérable. Un petit peu en latin, bien sûr, mais également dans la langue vulgaire, et c'est là un exemple de l'expression en langue vulgaire de cette image qui a été relancé au XIIe siècle, au milieu du XIIe siècle, par un ecclésiastique, un prélat anglais, Jean de Salisbury, dans le Polycraticon. Et donc, dans le Polycraticon, Jean de Salisbury développe la métaphore, l'allégorie du corps politique de façon assez développée, mais encore ne prétend-il pas être l'inventaire de cette métaphore, mais l'avoir tirée d'un auteur inconnu de l'Antiquité. Et puis cela suit son développement, et là nous en avons tout simplement un avatar. Donc je ne peux pas en faire l'histoire, etc. Ce qui me frappe dans le développement de Pierre Choinet, c'est deux choses. La première, c'est que le roi est le cœur. Or, ça dit beaucoup de choses, le cœur au Moyen-Âge, parce que le cœur, c'est la vie, mais c'est également l'amour, le sacré cœur, n'est-ce pas ? Par conséquent, en choisissant le cœur comme symbole du roi à l'intérieur de ce corps politique, eh bien, je pense que Pierre Choinet veut dire quelque chose, à savoir que le roi est naturellement celui qui gouverne, celui qui tombe, celui qui lève des armées, celui qui fait la guerre, mais également celui qui doit aimer et protéger ses sujets. Donc, le thème traditionnel de l'amour réciproque entre le roi et ses sujets, est présent, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, par le biais du cœur. Et puis, ma deuxième constatation, c'est que la tête, c'est le clergé. C'est le clergé, or, bien souvent, la métaphore du corps politique exclut le clergé. C'est une métaphore toute laïque. Et là, nous avons le clergé qui a un rôle assez étonnant, puisque c'est la tête, et donc par conséquent, en un sens, c'est l'organe de commandement du gouvernement. Donc il y a ce dialogue entre le corps et la tête, et le cœur et la tête, qui me paraît caractéristique de la façon dont Pierre Choinet utilise cette vieille allégorie. Comme vous le savez, aujourd'hui, on voit la fin du Moyen-Âge, notamment en France, comme une période de crise, de convulsion, la guerre de Cent Ans, etc., mais également comme une période où se met en place une grande chose, à savoir l'État moderne, genèse de l'État moderne, depuis Philippe le Bel, etc. Bien. Et donc, je me pose la question, est-ce que Pierre Choinet est partisan, favorise l'État moderne. Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il est du côté des conservateurs et pour trouver une expression de l'État moderne, il faut peut-être se tourner vers Comines plutôt que vers Choinet.
Philippe de Comines qui d'ailleurs ne parle jamais de Pierre Choinet.
Non, Non, c'est amusant. Il n'existe pas à ses yeux.
Il n'existe pas à ses yeux, pas plus que Jean Bourret, parce que Comines est oublieux de personne. Alors on pourra dire que Pierre Choinet n'était peut-être pas suffisamment important, quoi quand même il existait, mais Jean Bourret était terriblement important auprès du roi, et Jean Bourret n'est pas mentionné dans les mémoires. Donc Comines, qui est une merveilleuse source, est parfois oublieux, il omet.
Autrement dit, pour voir la véritable politique de cette époque, il faut lire Comines plutôt que Pierre Choinet. Pierre Choinet se situe malgré tout au niveau de l'idéal.
Ah oui, on est dans un idéal. Je vais revenir sur l'amour et le cœur et l'amour. Mais regardez par exemple cette miniature dont on parlait tout à l'heure, qui est la miniature du roi berger qui tond une fois l'an. Il accepte, il entérine quand même l'idée d'un impôt régulier et permanent. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas moderne. Je vais revendiquer la modernité. Non, mais c'est vrai. Il aurait pu rester, justement, un roi qui veut vivre du sien. Ce n'est pas son cas. Il accepte l'impôt moderne une fois par an, mais pas avec des crus de taille comme faisait Louis XI. Mais pour revenir sur le cœur, assez curieusement, vous voyez, dans ce poème, il ne parle pas directement d'amour, de l'amour du roi, de cet amour réciproque qui va unir le roi et ses sujets, mais il en parle beaucoup dans « Le rosier des guerres ». Et c'est très présent, c'est vraiment un thème important, ce rosier des guerres qui était donc destiné à Charles VIII, au futur Charles VIII. Et là, il parle beaucoup d'amour. Et ici, il en parle peu ou il en parle d'une autre manière. Et le cœur est probablement une de ces manières.
Autre remarque, peut-être que je le tire un petit peu à la médecine, mais le fait que le foie est très important.
Inattendu.
Inattendu, rare. Le foie comme producteur de richesse. On a l'impression de la fonction glycogénique du foie, comme aurait dit Claude Bernard.
Bon, mais il sait donc, ce qu'il voilà. dit. Il sait ce
et
qu'il voilà. dit.
Il sait ce qu'il dit, absolument.
Et c'est vrai que le foie n'apparaît pas. Habituellement, dans cette métaphore du corps politique, le foie n'apparaît pas. Là, il apparaît, mais on a affaire à un médecin. Et donc, il connaît les organes, il connaît leurs fonctions. Et donc, il expose la fonction du foie, capital.
Parce qu'habituellement, dans cette métaphore du corps, par exemple dans Guillaume de Guilleville, des auteurs comme cela, le corps repose sur les jambes et les pieds. Alors les jambes, les pieds, c'est les producteurs, agriculteurs, artisans, etc. Et là, ça n'est pas le cas, puisque les jambes, les pieds et les bras, c'est la noblesse.
C'est la noblesse.
Donc il a remodelé un petit peu tout cela, de façon, il faut bien le dire, originale.
Et c'est tout à fait assez caractéristique finalement de tous ces auteurs dont on se dit « Ah, mais ils se copient tous ». Lorsqu'on va vite, on dit « Ah, mais tous ces textes se ressemblent tous ». Et finalement, quand on a vu un point commun, on se dit « Ah, mais c'est tout pareil ». Mais non, ils passent leur temps à reprendre, à modifier un détail. Et puis finalement, ce détail n'est pas un détail et c'est une recomposition, comme ce que vient de dire Philippe Contamine sur ce corps. Finalement, c'est plus du tout dans l'ordre habituel. Et pourtant, il a repris les mêmes ingrédients. Et ça, c'est très caractéristique de leur manière de concevoir l'écriture, de s'inscrire dans ce qui a été fait, mais d'apporter quelque chose
dans
de personnel.
La différence, disons, de ce que nous voulons, un auteur de nos jours doit être original. Original, n'est-ce pas ? Et plus original il est, mieux il remplit son rôle.
Surtout s'il est en rupture.
Les médiévaux ne travaillent pas comme ça. Et donc leur originalité existe, mais elle est masquée. Donc il faut, disons, les scruter de très près pour voir des inflexions, des nouveautés, mais qui ne sont pas mises en relief. On travaille, disons, dans la conformité à la tradition.
Alors il y a une conformité, c'est la question de Dieu, puisque nous évoquions le pouvoir et nous évoquons le pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir sans Dieu et le pouvoir vient de Dieu. Et le roi rendait compte qu'à une personne, c'est à Dieu.
Mmh. Surtout lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie et qu'il va faire une confession générale qui doit le laver de toutes ses fautes avant de passer dans l'autre monde.
Mmh. Et là, Pierre Choinet établit ce que vous appelez un ABC de la foi.
Ben c'est le terme de Gerson, c'est l'ABC de la foi, l'ABC des simples gens, c'est-à-dire une sorte de catéchisme avant la lettre, puisque le catéchisme n'existe pas en tant que tel, mais il existe quand même une sorte de résumé de la foi, qui est toujours un peu le même. Et c'est intéressant, là aussi, pour revenir sur ce qu'on disait à l'instant, de voir si c'est totalement orthodoxe, s'il a ajouté quelque chose, s'il a mis l'accent sur tel ou tel vice. Il met l'accent ici, manifestement, sur l'avarice.
D'autres, chaque âge a ses péchés.
A ses péchés.
Et donc, le dernier âge de la vie, c'est l'avarice.
C'est l'avarice,
ça.
Oui, c'est exactement voilà. ça. La charité se refroidit et l'avarice grandit. hein, comme une sorte de vase communicant. C'est vrai, il fait ce résumé de la foi que tout le monde connaît un peu, mais qui est toujours le même et toujours différent finalement. Et c'est vrai qu'il... Bon, alors il y a le credo. Le credo, il passe. Bon, bah, tout le monde connaît le credo. On a les vices, on a les vertus, on a les puissances de l'âme. Hein, les sens externes et puis les sens internes. Donc, et puis, quelquefois, on a des choses un peu inattendues. Moi, j'avoue que j'ai été assez surprise par ses larmes. À un moment donné, il y a des larmes. Il dit qu'à un moment donné, il avoue que il ne sait pas s'il fait bien, s'il fait mal, parce que les mystères sont si profonds qu'ils font en larmes. Je me suis dit, bon, ce sont les larmes du pécheur qui vont amollir cette terre. Est-ce que ce sont des larmes d'incompréhension ? J'ai eu l'impression dans ce texte que c'était des larmes d'incompréhension devant le mystère. Donc ce ne sont pas des larmes d'humilité, ce ne sont pas des larmes de repentir, c'est autre chose encore. Et là, vous voyez, on touche du doigt, tout petit exemple. Je ne connais pas ces larmes. Il y a des livres sur les larmes, hein, le livre de Piroshkanagi, et sur les larmes. Et là, dans le répertoire qu'elle fait de ces larmes, il n'y a pas ces larmes-là. Il y a toujours un petit quelque chose de nouveau.
Alors, nous n'avons pas commencé par le commencement, et le commencement, c'est cette miniature magnifique, j'allais dire de cette trinité, mais non, ce n'est pas une trinité, c'est une
quaternité
représentant la quatrième personne étant la Vierge Marie.
Mais oui. On reconnaît bien, on voit bien le Père, Dieu, le Fils avec la croix, la plaie du côté, hein, il presse la plaie du côté.
Un signe maternel, vous dites.
Ah oui, c'est nourricier en tout cas, c'est nourricier. Il y a cette colombe qui relie les deux visages. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et c'est vrai qu'il y a un quatrième personnage qui est la Vierge. C'est une Vierge couronnée, ce n'est pas un couronnement de la Vierge, elle est déjà couronnée. Et là encore, on peut se dire que ça correspond à des thèmes, à des thématiques iconographiques qu'on connaît à l'époque. Et puis, ça correspond aussi à la piété de Louis XI, piété profonde et totale de respect et de confiance envers la Vierge Marie. Philippe Contamine disait tout à l'heure, il a demandé à être enterré à Notre-Dame de Cléry, dans l'église Notre-Dame de Cléry, sur la Loire, devant une statue de la Vierge. Les rois ne sont pas enterrés à Notre-Dame de Cléry, les rois sont enterrés à Saint-Denis. Lui, il a demandé, Louis XI a demandé à être enterré à Notre-Dame de Cléry. Bon, devant la Vierge.
Je me permets de lire tout de même les premières lignes, les premiers vers. Alors, je vais les lire en français moderne. Jésus-Marie, je vous envoie, sont les premiers mots, je vous envoie ce petit livre bien plaisant concernant les trois âges. Je suis désolé qu'il ne soit pas meilleur et je vous supplie de l'accepter avec joie. Qu'a-t-on dit que le pauvre ne se trompe jamais quand il fait un petit don ? Je l'ai lu à l'école, c'est dans ce sens que je l'ai pris.
Alors ça, c'est la modestie qu'on connaît. Est-ce qu'on fait encore ça ? Est-ce qu'il y a encore ce préambule modeste ? C'est une convention de l'époque.
C'est une convention.
On dit qu'on a été incapable, que la tâche était immense, qu'on a fait tout ce qu'on a pu. Et puis on est parti pour des centaines et des centaines de feuillets. Il le fait lui aussi. Ils le font tous.
Oui.
Peut-être que dans l'Église, on le fait encore, n'est-ce pas ? Je suis indigne de cette fonction, mais si Dieu le veut, etc., je ne peux pas la refuser.
Voilà.
N'est-ce pas ? Bon, mais je crois que le dernier milieu où on pratique ce genre de captatio benevolentiae, n'est-ce pas ? Bon, il ne faut peut-être pas y attacher trop d'importance.
Non, c'est l'usage.
C'est l'usage, mais malgré tout, vous montrez cette sensibilité propre. Vous parliez tout à l'heure des larmes et de ce qu'on pourrait appeler un acte de foi et un acte aussi d'humilité de ce personnage.
Oui, d'autant qu'il a une tâche énorme en réalité. Il a une tâche énorme, il veut sauver le roi, enfin il veut participer, il veut aider. En fait, il veut que quelqu'un fasse venir ce confesseur et fasse oublier au roi cette obsession de gagner du temps, de retrouver la santé. Le roi ne peut plus retrouver la santé en 1482-83. Et il y a un moment donné, que j'appelle le moment de désarroi royal, où le roi fait vraiment n'importe quoi. Juste avant que François de Paule n'arrive.
N'est-ce pas le rôle du clerc, au fond, de donner ce conseil ?
tout à fait.
Oui, mais je pense qu'il a une culture cléricale. Je ne pense pas que ce soit un clerc, pour m'en parler, je n'en sais rien. Hein. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il est présenté. Mais enfin, un médecin, donc un médecin qui a suivi des études universitaires à Montpellier, est-il clerc, est-il laïque, je ne sais pas si ça a tellement un sens à l'époque. Bon, mais ce que je crois, c'est qu'effectivement, il aime le roi, je pense que c'est un bon serviteur du roi, et il veut l'aider à passer d'un monde à l'autre. Louis XI avait, bon, tout le monde a peur de la mort naturellement, mais Louis XI le manifestait de façon spécialement visible, ce qui n'était pas l'habitude, en tout cas l'habitude d'un roi. Bien, et donc il avait même fait une enquête pour savoir à quel âge au maximum les rois de France, ses prédécesseurs, étaient-ils morts. Et donc il avait calculé, on lui avait dit, suite à des... disons, une inspection des grandes chroniques de France, qu'aucun roi de France n'avait dépassé l'âge de 60 ans. Hein? Et donc Louis XI, or, 1423, hein? 1423, 1483, n'est-ce pas? Bon, ça, il ne l'avait pas oublié. Oui, oui. Alors, il y avait chez Louis XI une angoisse, il faut bien le reconnaître, et avec, disons, des remèdes qui apparaissaient dès l'époque assez incongrus, pour se prolonger. Donc il y avait toute une série de médecins, Jacques Coctier et quelques autres, et donc notre Choiné était l'un des médecins parmi d'autres, hein, mais toute une série de médecins qui l'entouraient et qui disaient qu'après tout, il n'était pas impossible de prolonger sa vie si on suivait leurs remèdes. Donc il y a quelque chose d'assez poignant dans ce poème. Pour en revenir à cette très belle miniature, comme vous le savez, les artistes du temps travaillaient de façon assez différente les uns des autres, c'est tout à fait entendu, mais c'est l'illustration d'un livre. On commence par le livre, et puis ensuite on prévoit des miniatures avec leur emplacement, etc. On commence par le manuscrit, on prévoit l'emplacement des miniatures, et on donne à l'artiste, au miniaturiste, à l'enlumineur, un programme iconographique. Nous en avons conservé très peu pour le XIVe, XVe siècle, mais quelques-uns malgré tout. Et évidemment, on aimerait beaucoup savoir quel est le programme iconographique qui a présidé aux miniatures du Livre des Trois Âges, et notamment cette première miniature.
La première miniature, mais il y en a...
Et la dernière.
Et la dernière. Et puis la scène d'échec. Il y a une très jolie scène d'échec, très intéressante, qui est tout à fait compatible avec le sens du poème. Il y a des figures et puis il y a des pions. Donc c'est une manière de parler de la diversité de la société. Bon, mille liens avec la thématique du poème. Mais l'auteur, Pierre Choinet, ne parle pas du jeu d'échecs. Et pourtant, il y a une très belle miniature, pleine page d'un jeu d'échecs. Et puis il y a la dernière miniature.
Alors je vais vous couper, Lidwin. Nous allons nous retrouver dans un instant après cette toute dernière pause.
Canal Académie vous propose une rétrospective sur les sept vies de Prosper Mérimée en compagnie du biographe Pierre Pélissier. Le nom de Mérimée reste attaché aux monuments historiques dont il fut le deuxième inspecteur général nommé par Thiers. Il fut également membre de deux académies, les inscriptions et belles-lettres et la française, mais en vérité, il mena plusieurs vies. Pour en savoir plus, téléchargez dès maintenant cette émission dans la rubrique « En habit vert ».
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée au Livre des Trois Âges de Pierre Choinet, un livre écrit en 1482-83, nous ne savons pas exactement, un livre destiné au roi Louis XI qui se meurt. Et je reçois pour parler de ce Livre des Trois Âges Lidwin Scordia, médiéviste, qui a établi l'édition critique de ce livre, et M. Contamine, membre de l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, spécialiste donc du pouvoir et de la noblesse au temps médiéval. Nous avons laissé nos auditeurs sur une énigme, l'énigme d'une miniature. Et c'est vrai, quand on lit votre édition critique, Lidwin Scordia, on est étonné de cette toute dernière image, de cette toute dernière miniature. Je vais essayer de renvoyer nos auditeurs à notre site internet. Si je peux avoir une représentation, je la mettrai. Mmh. Elle représente donc un vieux personnage qui se lève d'un fauteuil en bois soutenu par deux autres personnages. C'est la partie supérieure de l'image. Au fond, à droite, on voit un lit sur lequel repose un oreiller. Et sur la partie inférieure de l'image, on voit trois petites scènes qui sont des scènes complètement improbables, qui représentent des enfants. Voilà. Des jeux d'enfants. Et des jeux, on peut se demander, même parfois un peu graveleux, comme vous allez nous le présenter. Et cette image, on se demande ce qu'elle signifie.
Eh bien oui, parce que cette image est en porte-à-faux avec le contenu du poème. Le poème, on l'a compris, s'adresse à un roi moribond qui ne veut pas qu'on lui parle de mort ni de diminution due à l'âge, etc. Que voit-on sur cette miniature ? Un vieillard qui est un vieillard et qui a du mal à s'asseoir, à se lever, qu'il est pourvu d'une canne, il est soutenu des deux côtés par un couple qui est d'âge moyen, on peut dire que le couple dans la maturité, mais lui, il représente la vieillesse. Et quant au lit dont vous signaliez la présence, il est presque évident que la fin de sa vie se passera sur ce lit et ce sera la scène fameuse de la mort accompagnée du mourant. Alors, pourquoi montrer un vieillard décrépit alors que justement il ne faut pas parler trop de la décrépitude et comme le dit le poème, parler n'en faut. Et puis sur le devant de la scène, il y a sept enfants qui jouent à des jeux. Et l'artiste a écrit en lettres d'or « Enfance », bien écrit en lettres d'or. Alors que son poème, il a voulu les trois âges de l'homme, on le disait tout à l'heure, mais il avait mis de côté l'enfance, puisqu'il avait dit que l'enfance, on n'avait pas la connaissance d'homme, et donc il voulait commencer à la jeunesse. Alors là, il parle de l'enfance nommément, et on a des enfants qui jouent à des jeux, les jeux d'enfants de l'époque, les deux qui se trouvent à gauche jouent au tournoi. D'ailleurs, il y a des détails incroyables. On voit les chaussettes de l'un sont tenues par des espèces de fixes chaussettes. Hein, et on voit très nettement, ce n'est pas une invention de l'éditeur devenu.
Oui.
Mais exactement, ce n'est pas une invention. Les deux du milieu, il y a deux garçons qui jouent avec une toupie, hein, la toupie qu'on fait tourner avec un fouet pour l'aider à tourner plus longtemps, sinon plus vite. L'autre, c'est une sorte de yo-yo horizontal, en fait, qui devait être un jeu diablement difficile. Et puis, il y a le dernier groupe.
Que j'ai qualifié de graveleux, c'est peut-être pas le terme.
Attention. Le dernier groupe, alors qui est intéressant à plus d'un titre, d'abord parce que c'est une image qui a été grattée, c'est une image qui a été mutilée. Mutilée, c'était déjà mutilée à l'époque de Firmin Didot, donc à la moitié du 19e siècle. Et Paulin
Ça
Paris.
Ce n'est pas la pudibonderie du 19e siècle.
Écoutez, alors que représente la scène ? En fait, on devine très bien ce qui a été gratté. Il y a un petit garçon qui soulève sa veste et qui urine dans un récipient qui est tenu par un autre petit garçon qui est agenouillé devant lui. Et puis, il y a une petite fille qui doit tenir le sexe du petit garçon qui urine et qui regarde vers le haut et qui regarde vers deux insectes qui s'échappent.
Un papillon. Et une abeille.
Maintenant, on dit aux chercheurs, débrouillez-vous avec ça. 500 ans après, débrouillez-vous avec ça. Alors, il y a des hypothèses. Bon, papillons et abeilles sont des insectes de métamorphose. Paulin Paris, qui s'était intéressé à la scène, que ça avait amusé d'ailleurs, qui dit que la scène était grattée, il avait dit ça rappelle les jeux de Gargantua. Mais alors lui, il trouvait que c'était une scène qui était un peu coquine, donc elle avait été grattée justement par pudibonderie. Mais j'avais en mémoire, vous rappelez Philippe Contamine, il y a ce très beau livre, Le Moyen-Âge en lumière, et j'avais en mémoire une marge d'un livre d'heures à l'endroit de l'Office des morts. Dans la marge, il y a le dessin, la peinture d'un petit garçon qui urine, pareil, dans un récipient. Je me suis dit, même motif, même époque, même contexte de mort, bon, c'est quand même troublant. Je rapproche, je ne dis pas que je trouve la raison. Et puis, le livre des trois âges, vous savez, c'est comme une malédiction, on ne peut pas en sortir. Hein.
Tant Et qu'on un a historien pas... ne referme jamais ses dossiers.
Exactement. Et alors, je me suis demandé, je suis partie sur l'étude de l'urine, voir s'il n'y avait pas un sens. Je me suis dit, peut-être qu'il joue au docteur. Il joue au docteur, le docteur, à l'époque, regarde les urines, goûte les urines, et c'est comme ça qu'il sait déterminer l'état de son patient.
Le diabète, etc.
Mais voilà. Donc, c'est important. Ce n'est pas un jeu, c'est un apprentissage. Comme celui qui joue au tournoi, eh bien, il fera la guerre plus tard. Mais l'urine a aussi un autre sens, un sens alchimique. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas dans cette fameuse superposition de sens dont on parlait, eh bien aussi une lecture alchimique. Parce que pour ceux qui ont le goût alchimique, Et c'est un goût alchimique assez répandu. L'alchimie, c'est un fond culturel, si vous voulez. Il y a une alchimie qui est une alchimie chrétienne, je dirais, dans le songe du vieux pèlerin, où on a la sainte alchimie. Pourtant, Philippe Contamine, c'est bien ça. Philippe de Mézières est un homme pieux et plus que pieux. On ne peut pas le soupçonner d'être un magicien. Et l'urine, dans la lecture alchimique, c'est le dissolvant. C'est le dissolvant qui permet de faire retrouver à la matière sa forme première. Alors, évidemment, lorsqu'on connaît le sens de cette urine, ce sens alchimique de l'urine, on se dit que c'est assez compatible avec la représentation de cette miniature. Et puis, il y a d'autres... Ce motif, en fait, je me suis aperçue, ce motif d'un enfant, petite fille ou petit garçon, qui urine, c'est un motif décoratif. On le trouve dans le fameux château de Jean Bourret, l'homme de confiance.
En Plessis-Bourret. Oui.
Le Plessis-Bourret. Il y a une scène qu'on appelle la fontaine indécente et qui est une scène incroyable, je dirais apparentée à celle-ci. Encore une fois, on est dans la même époque. On est exactement à la même époque, seconde moitié du XVe siècle. Et puis, on ne va pas aller trop dans le détail, il y a d'autres éléments qui peuvent faire penser qu'il y a aussi cette pensée alchimique. Alors, j'aimerais avoir là...
Peut-être un dernier mot.
Je réagis à cette suggestion, elle me paraît très intéressante. Je crois que cette scène a un côté un petit peu, comme on dit, rabelaisien, quoi. Il y a un côté un petit peu rabelaisien, comme Plessis-Bourret, etc. Mais l'interprétation proprement alchimique n'est pas à écarter, je suis prudent. Et la question que je me pose, si Louis XI a vu, sinon cette miniature, du moins une miniature comparable, s'il était en état, disons, de regarder de façon efficace un poème de ce genre, est-ce qu'il a compris le sens alchimique ? Est-ce que la culture alchimique de Louis XI était suffisamment forte pour que cette signification ne lui échappe pas ? Je dirais également, pour terminer, qu'il s'agit d'un poème en un sens de circonstance. Là, nous sommes bien d'accord. Mais au fond, on peut dire que des tas d'éléments des croyances médiévales, pour son salut, pour son bon gouvernement sur Terre, etc., etc., figurent dans ce court poème, finalement. Donc, si on ne possédait pour le XVe siècle que ce seul texte, on pourrait en tirer énormément, et c'est ce que vous avez montré dans votre superbe édition.
Merci Philippe Contamine, merci Lydwyn Scordia pour être venu parler du livre des trois âges de Pierre Chouanet, publié aux publications des universités de Rouen et du Havre, un livre magnifique qui montre ô combien l'histoire médiévale a sa propre sensibilité. Ce livre est une très belle illustration de cette sensibilité que vous avez tenté de nous retraduire à travers cette émission. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.